sur des pierres empilées. À quoi ça sert de bâtir pour un mépris à venir, pour un mépris à venir.
Mahavidrohi ranoklanto, ami sei din hobo shanto. জবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খর্গ কৃপান ভীম রণভূমে দণিবে না। আমি চির বিদ্রোহী বীর, আমি বিশ্ব ছাড়ায় উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।
Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Échec et Glutamate. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, chers auditeurs lyonnais. Et oui, les vacances d'Échec et Glutamate ont été longues. Et oui, le travail ne nous a pas aidés. On a beaucoup travaillé pendant ces vacances, hein, pour le dire. Et on est très content de vous rencontrer. Et au nom de toute l'équipe, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne année, si je peux dire.
Bonne année.
Voilà.
Bonne année.
Donc, qui dit équipe, qui dit personnage complètement farfelu, car c'est Échec et Glutamate. Donc, je représente toute l'équipe quand même, hein, parce que finalement, une nouvelle année, c'est un nouveau départ.
Exactement.
C'est ça, hein. Hein. Alors, on a, on a Léa qui est revenue, princesse Léa. Bonjour.
Bonjour.
Ah, t'étais déjà venue.
Ouais, oui, elle est déjà venue. C'est sa deuxième émission, ce serait un peu bien que tu suives.
Si j'étais au ski la semaine dernière, moi.
Vraiment très bien.
En fait, à la base, elle devait te, enfin, prendre ta place.
Voilà, c'est ça. Ouais.
C'est ça, en fait, le truc. on voulait te virer de l'émission.
Vous avez pris une. Voilà.
Bah oui, on a essayé de trouver quelqu'un qui a une beauté qui est quasiment égale à la tienne. Donc, on a trouvé Léa.
Exactement.
Non, bah, je le prends comme un compliment alors.
Mais pour Léa, par contre, je sais pas si c'est un compliment. Donc, monsieur Lassu aussi. Bonjour, monsieur Lassu.
Salut.
Ça va?
Super.
Ça va? Et ton voyage dans le Var s'est bien passé?
Ah, très très bien. Très très bien. J'étais en t-shirt à Toulon à 14h en train de boire un petit Ricard. Alors, le sud, c'est super.
Ouais, du coup, avec le réchauffement climatique, l'apéro, ça va pas s'amenuire dans le sud de la France, j'ai l'impression. Non, non. Ouais. Et notre cher ami prof Tob.
Eh ben oui, de retour. Il marche pas ce micro là.
Mais si,
il marche.
Ouais, je m'entends mal.
C'est toi qui arrives pas à parler.
Si, il marche, mais voilà. Des micos qui déconnent, voilà, bon. C'est comme ça, hein, on va pas chipoter. Donc aujourd'hui, on est content de vous retrouver. Nouvelle année commence, Échec Glutamate, voilà. On a brassé l'équipe. On a Yena qui est parti. On a Ratbai qui est à Nice en train de couper de la lavande. Mais voilà, on va être au grand complet d'ici quelques jours, promis. Donc aujourd'hui, on a décidé, on a passé une année 2011 assez particulière. On s'est dit, j'étais avec Lassu au téléphone, un peu comme lorsque. Gorbatchev téléphonait à Kennedy à l'époque. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait comme émission?
Reagan,
pardon. Kennedy, c'était Khrouchtchev.
Ouais.
Pardon, tu as raison. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire comme émission au début d'année? On s'est dit, tiens, vu l'actualité, on a eu une actualité tempétueuse en 2011. On s'est dit, tiens, on choisit comme thème la tempête. Voilà. On s'est dit, on a qu'à faire ça. Et du coup, vous allez voir, ils sont chauds, hein, je les vois, je les regarde, ils ont fait préparer un truc de fou. À part Prof Tom, évidemment, qui tarde à sortir ce petit papier, bon, il va. Quand tu veux, hein, on est parti.
En même temps, tu m'as donné le thème hier, j'étais en train de bouffer.
Tes pâtes au beurre avec un peu de sauce tomate, que ça?
Non, un bon petit rôti de porc avec des pommes de terre à la moutarde.
Ah bon?
Ah ouais.
Ils t'ont augmenté à McDonald's?
Non, ils vont me virer là.
D'accord, ça marche. Allez, on continue l'émission, musicalement évidemment. Et après, on va retrouver notre couple complètement farfelu, Monsieur Lassu et Princesse Léa. À tout à l'heure.
Ça y est.
souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mine en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Good morning, Lyon. Vous êtes bien sur l'instant de la dimension subliminale patchwork poétique. Aux racines de la tempête. C'est un sacre. La tempête. Allez. En avant la zizique.
À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble, obéir à sa voix. L'œil morne maintenant et la tête baissée semblait se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sortit du fond des flots. Des airs en ce moment à troubler le repos. Et, du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide s'élève, à gros bouillons, une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux. Parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en replis tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est infecté. Le flot qu'il apporta recule épouvanté. Tout fuit. Et, sans s'armer d'un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses courriers. Coursier saisit ses javelots, pousse au monstre et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux tomber en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée qui le couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte et, sourds à cette foi, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voie. En efforts impuissants, leur maître se consume. Ils rougissent le mort d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même en ce désordre affreux un dieu qui d'aiguillon pressait leurs flancs poudreux. À travers les rochers, la peur les précipite. Les cieux crient et se rompt. L'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes, lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler, et sa voix les effraie. Il court, tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux, la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit. Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques où des rois, ses aïeux, sont les froides reliques. J'y cours en soupirant, et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit. Les rochers en sont teints, les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle, et, Me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. « Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin, après ma mort, de la triste Aricie. Cher ami, si mon père, un jour désabusé, plaint le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rende à ce mot. Ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré. Triste objet où des dieux triomphe la colère et que méconnaîtrait l'œil même de son père.
Perfide, oses-tu bien te montrer devant moi ? Monstre qu'a trop longtemps épargné le tonnerre, reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre. Après que le transport d'un amour plein d'horreur jusqu'au lit de ton père a porté ta fureur, tu m'oses présenter une tête ennemie, tu parais dans des lieux pleins de ton infamie. Et ne va pas chercher sous un ciel inconnu des pays où mon nom ne soit point parvenu. Fuis, traître ! Ne viens point braver ici ma haine et tenter un courroux que je retiens à peine. C'est bien assez pour moi de l'opprobre éternel d'avoir pu mettre au jour un fils si criminel sans que ta mort encore honteuse à ma mémoire de mes nobles travaux vienne souiller la gloire. Fuis ! Et si tu veux qu'un châtiment soudain t'ajoute au scélérat qu'a puni cette main, prends garde que jamais l'astre qui nous éclaire ne te voie en ces lieux mettre un pied téméraire. Fuis, dis-je ! Et sans retour précipitant tes pas, de ton horrible aspect purge tous mes états. Et toi, Neptune, et toi ? Si jadis mon courage d'un fameux assassin nettoya ton rivage, souviens-toi que pour prix de mes efforts heureux, tu promis d'exaucer le premier de mes vœux. Dans tes longues rigueurs d'une prison cruelle, je n'ai point imploré ta puissance immortelle. Avare du secours que j'attends de tes soins, mes vœux t'ont réservé pour de plus grands besoins. Je t'implore aujourd'hui, venge un malheureux père. J'abandonne ce traître à toute ta colère. Étouffe dans son sang ses désirs effrontés. Thésée, à tes fureurs, connaîtra tes bontés.
talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Reuben could take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man. Marked in advance. The trial was a big circus. He'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards, smokers, and slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Is that the story of the hurricane? But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Hey, vous êtes bien à Radio, sur Radio Canu, le 102.2. Oui, j'ai pas pu m'en empêcher de prendre la parole.
Échec et 8 à mettre.
Voilà, à bon, vous de jouer.
Les radios.
L'émission déjantée à l'heure du goûter.
Voilà, on est en forme, on est plein de bonnes vibes. Et oui, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait d'émission que du coup, on a plein à revendre.
C'est la tempête.
Voilà, c'est la tempête, émission dédiée à la tempête aujourd'hui.
Tellement que je m'entends pas.
Ouais.
Allô, 1, 2, 3. Ah, voilà.
Du coup, juste pour donner la provenance de nos textes, juste avant, vous avez pu entendre tout d'abord l'Albatros de Baudelaire par la SU. Ensuite, c'était l'acte 5 de scène 6 Théramène. Et pour finir, c'était Thésée dans l'acte 4 de la scène 2, tout ça dans Phèdre, évidemment, de Racine.
C'est la base, quoi.
La base.
Ouais.
Et tout ça, bien sûr, sur un fond de Stravinsky, Le Sacre du Printemps. Et pour finir, donc, Hurricane de Bob Dylan.
La base.
La base.
La base Stravinsky. Aussi.
Oui, Hurricane, évidemment, en plein coïncidence avec le thème. Que dire de plus? On va enchaîner avec, écoutez, avec la chronique de Prof Tob. Et puis avec ma petite chronique de fin aussi.
Je voulais que tu passes un morceau avant.
Voilà, évidemment, mais on va enchaîner. Mais juste avant Prof Tob, on va écouter un petit morceau de Nicolas Jarre. À tout de suite.
Qui arrive en un souffle glacé, de terreur fantastique, rumeur des trépassés, balayant tout sur son passage, claque les volets, les écharpes sur les visages, la tempête s'est levée. L'impétueuse furie de cette belle nuit d'orage, la maison Eucher chute, Lord Humpim et son naufrage. Je relis Edgar Poe, le vent me tourne les pages, un tourbillon semble se concentrer dans mon voisinage. La voilà qui arrive, dis-je, en un souffle glacé, l'impétueuse furie de cette belle nuit glacée, Et moi je pense, glacé, au beau milieu de la tempête, à ceux qui n'ont ni toi, ni bonne étoile sur la tête, ni d'autres lieux pour s'endormir ou frémir que la rue et ses lendemains sans avenir.
Thank you. Nous autres serons en sécurité tant que les pauvres n'apprendront pas à fabriquer des bombes atomiques dans leur sous-sol. J'emmenais les femmes soit au match de boxe, soit au champ de course. Ce jeudi soir, j'ai emmené Catherine voir un match de boxe à l'Auditorium Olympique. Elle n'avait jamais assisté à un combat de visu. On est arrivé avant la première reprise et on s'est assis près du ring. Je buvais de la bière et fumais en attendant. C'est étrange, je lui ai dit, tous ces gens assis qui attendent que deux hommes montent là, sur le ring, pour se castagner à mort. Ce doit être horrible. Cet endroit a été construit il y a très longtemps, lui dis-je, tandis qu'elle regardait l'ancienne arène. Il n'y a que deux WC, un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Et ils sont petits, essaye donc d'y aller avant ou après l'entracte. D'accord. Le public de l'Olympique se composait surtout de latino-américains et d'ouvriers blancs, plus quelques vedettes de cinéma et autres célébrités. Il y avait souvent de bons boxeurs mexicains qui se battaient avec leurs tripes. Les seuls mauvais combats étaient entre blancs ou noirs, en particulier dans la catégorie poids lourd. Être avec Catherine à l'Olympique me faisait une impression bizarre. Les relations humaines sont bizarres. Je veux dire, on est avec quelqu'un pendant un certain temps, on mange, on dort, on vit avec cette personne, on l'aime, on lui parle, on sort avec elle, et soudain, c'est fini. Suit une brève période où l'on n'est plus avec personne, et puis une autre femme arrive, on mange avec elle, on baise avec elle, et tout ça semble tellement normal, comme si c'était elle qu'on attendait, et vous qu'elle attendait. Seul, je ne me suis jamais senti à ma place. Parfois, je me sentais bien, mais jamais à ma place. Le premier combat fut un bon combat, avec plein de sang et de courage. Assister à un combat de boxe ou aller au champ de course apprenait quelque chose sur l'écriture. Le message n'était pas très clair, mais ça m'aidait. D'ailleurs, c'était ça l'important. Le message n'était pas clair. Il se passait de mots. Comme une maison en flammes, un tremblement de terre ou une inondation. Ou encore, une femme qui sort de voiture en montrant ses jambes. Je connaissais pas les besoins des autres écrivains, je m'en foutais, de toute façon je les trouvais illisibles. J'étais enfermé dans mes propres habitudes, mes propres préjugés. C'était pas mauvais d'être stupide. À condition que votre ignorance soit vraiment vôtre. Je savais qu'un jour, j'écrirais sur Catherine et que ce serait difficile. C'était facile d'écrire sur les putes. Écrire sur une femme estimable était beaucoup plus difficile. Le deuxième combat aussi était bon. Le public hurlait, rugissait et se pintait à la bière. Ces gens échappaient temporairement aux usines, aux entrepôts, aux abattoirs, au lavage de voitures. Ils se retrouvaient en captivité le lendemain, mais maintenant, ils étaient libres, ivres de liberté. Ils ne pensaient pas à l'esclavage de la pauvreté, ni à l'esclavage des allocations de chômage et des tickets de rationnement. Nous autres serons en sécurité tant que les pauvres n'apprendront pas à fabriquer des bombes atomiques dans leur sous-sol.
De milliards de secondes en arrière, une image m'avait frappé, tracassé. Un phare érigé vers le ciel, léché par une vaguelette de 15 mètres. D'ordinaire bleu, l'océan remué s'agitait tellement qu'il avait fait place au blanc d'une écume ravageuse. La scène m'était familière, puisque déjà dans mes bains, j'érigeais mon phare battu en brèche par une houle mousseuse ne faisant que renforcer la structure massive de mon obélisque. Avec ce monolithe d'amarrage, mon canard baignoire pouvait barboter tout tranquille. Bon, on va arrêter là. On va arrêter de stripoter le petit frère, comme on dit dans un certain film. Et on va revenir à des choses plus sérieuses. C'est incroyable ce qu'un phare peut encaisser quand même. Tempête après tempête. Il sera toujours là pour guider ou pour avertir d'un danger imminent. Et c'est justement ce que l'on demande à nos politiques. Mais là, pourrait-on en dire autant ? Grâce à une collaboration étroite entre Rue 89 et Chaki Glutamate, vous allez retrouver confiance en la politique. Si, si, je vous jure. Dans leur ouvrage, L'oligarchie des incapables, les journalistes Sophie Coignard et Romain Gubert citent une phrase qu'aurait prononcée Jean-François Copé à propos des parlementaires qui ne cumulent pas de mandat. Je cite. Tu comprends, si on a ici que des gens qui se contentent de 5000 euros par mois, on n'aura que des minables. Évidemment, l'intéressé dément formellement avoir prononcé cette phrase. Forcément qu'il dément. Peut-il faire autre chose? On le voit mal se justifier d'une telle affirmation sur le thème « Je préfère l'oligarchie des incapables à la démocratie des minables ». Jean-François Copé, au final, est un farce en lumière. Et quand je pense qu'il va être président en 2017... Il est vrai que Jean-François Copé est loin d'être un minable. Député de Seine-et-Marne, président de la communauté d'agglomération du pays de Meaux, maire de Meaux. Pendant un temps, il a aussi été conseiller régional d'Île-de-France. Et comme ses passe-temps lui laissaient quelques disponibilités, il a été collaborateur à temps partiel, entre 2007 et 2010, du cabinet d'avocats, je cite, Gide, Laurette Nouel, pour la modique... Ils inventent des noms, les mecs. Pour la modique rémunération de 17 000 euros mensuels. C'est tout. Comment il fait pour se nourrir, ce mec, putain? Qui a dit que les emplois du temps partiels étaient mal payés? Pour Jean-François Copé, on vaut ce qu'on parvient à se faire payer. Point final. Lors d'une interview sur France Inter, en juillet 2010, il nous avait éclairé sur ses convictions profondes. C'était au moment de la polémique sur le salaire d'Henri Proglio, et selon lui, il était tout à fait normal que les dirigeants d'exception soient payés des sommes sans commune mesure avec les revenus du commun des mortels. Voici une analyse de l'OCDE. Voilà, vous qui êtes très intelligent, chers auditeurs, vous devez savoir qui c'est. Et c'est pas n'importe qui, l'OCDE. Voilà ce qu'ils avaient écrit il y a quelque temps. Les inégalités posent un problème économique dès lors que l'éducation et d'autres capitaux restent la propriété de groupes minoritaires au sein de la société et réduisent fortement la mobilité sociale. Point. Elles constituent... également un problème politique dans la mesure où elles réduisent la cohésion sociale et conduisent les électeurs à se tourner vers des solutions nationalistes. Partout dans le monde, les mouvements sociaux actuels expriment le fait que la croissance des inégalités conduit à un déficit démocratique. Si Jean-François Copé ne voit toujours pas où est le problème, gageons que les 95% de minables qui constituent le peuple français sauront le lui rappeler le jour où il briguera le poste de président de la République française. Quoique, 21 133,37 euros bruts par mois, c'est pas un peu minable ça? We'll be right back.
Yes.
Yes, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2, l'émission des gens du goûter, échec et glutamate.
Wouhou.
C'est la tempête.
Ou échat et glutamate pour les...
pour les intimes.
Pour les intimes.
Non, ça va pas du tout, Simon. J'ai Jean-François Copé qui vient de m'appeler là, parce qu'on est un peu intimes tous les deux, on fait de la zik ensemble. Il m'a appelé, il m'a dit Toto, parce qu'il m'appelle Toto. Il dit, c'est ton pote là, c'est pas sympa, essaye un peu de te mettre à ma place. Ben, je lui ai dit, on aimerait bien être à ta place, mais nous on est intègres. Ben, il a dit, chacun son truc.
Bah, c'est quoi
Il est vexé.
Mais tu sais quoi, en plus, ne rigole pas, il y a un mec qui vient de m'appeler juste après ma chronique.
C'est pas vrai.
Dans la cabine, donc, voilà, on envoyait la musique, tout ça, on rigolait, on disait, putain, Simon, tu t'es gavé, ta chronique, toi aussi, là-dessus, tu t'es gavé et tout. Je réponds au téléphone, ah! Et là, il y a un mec qui me dit, bonjour, je travaille pour Google, machin truc, vous êtes quelle association, vous êtes une radio, vous habitez où, quelle rue, vous êtes bénévole? Je suis sûr que ce mec, il travaille pour Jean-François Copé, j'en suis sûr.
Oh, Jean-François Copé, il est partout, là, l'éminence grise.
JFC, tu nous laisses tranquille, hein.
Lâche-nous les basques, merde.
Voilà.
Occupe-toi de ton business et laisse-nous nous exprimer.
Exactement. Liberté. Voilà, l'émission touche à sa fin. C'était une émission spéciale tempête. C'était échec et glutamate. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais avant, quelques annonces par monsieur Lassu.
Alors, pour le petit côté agenda, donc on vous attend, toute l'équipe de l'échec et glutamate, le 22 janvier, donc c'est un dimanche, au Café de la Soie. Donc on fait pour la deuxième fois la sortie du magazine d'une compagnie qui est affiliée un peu à échec et glutamate, une compagnie de théâtre. Donc il y aura concert avec un beau groupe de concerts manouches, avec trois guitaristes, une violoncelliste, tout ce qu'il faut. Il y aura de l'expo, il y aura Simon qui va exposer ses photos, ses magnifiques photos de guerre. Il va y avoir François Giovangeli, j'espère, je te passe une annonce, il sera là, je pense, avec du théâtre, bien sûr,
par la friche,
de la feu Friche Herveille.
De feu, ouais. La friche, on
de
dit.
De feu, la friche Herveille, merci prof Tub, tu es là, prof, pour nous expliquer les choses.
Mais la friche ne mourra jamais.
La friche ne mourra jamais, oui, et bien vrai. Sûr, du théâtre et du clown, donc on vous attend. Donc au Café de la Soie, donc c'est place Bertone, sur la Croix-Rousse, Lyon, donc 69004. Croix-Rousse, Café de la Soie, donc c'est le magazine... Alternative de la compagnie Alternative pour concert théâtre, on vous attend. Merci à tous.
Merci à toi prof Tom, merci à toi monsieur Lassu, merci à toi princesse Léa. Merci à moi Sims, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème, ce sera
l'androgyne.
Allez, salut.
Salut.